VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Anne Albertson, voici les titres de ce vendredi 20 novembre.
En Guinée, le président Alpha Condé limoge le ministre de l'Intérieur et deux autres responsables gouvernementaux pour faute lourde après des violences meurtrières ayant suivi le week-end dernier un rassemblement religieux.
Au Burkina Faso, un responsable de la rébellion Touareg au Mali, écroué à Ouagadougou pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre dernier.
Au moins 5 personnes, dont un citoyen américain, ont été tuées jeudi à Tel Aviv et en Cisjordanie dans 2 attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains suspend l'accueil de 10 000 réfugiés syriens et irakiens. Barack Obama a promis d'user de son veto.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Tout d'abord, le journal. En Guinée, le président Alpha Condé a limogé jeudi le ministre de l'Intérieur et deux autres responsables gouvernementaux pour faute lourde, selon des décrets rendus publics à Conakry, après des violences meurtrières ayant suivi le week-end dernier un rassemblement religieux. Des détails avec Jean-Roger Bion.
D'après ces décrets, il est mis fin aux fonctions du ministre de l'Intérieur Mahamoud Cissé, du secrétaire d'État aux affaires religieuses El Hadj Abdoulaye Diassi et de son adjoint El Hadj Aboubakar Fofana. Il leur reprochait une faute lourde. Selon ses thèses, qui ne fournissent aucun détail et n'annoncent pas de remplaçant. Le président Condé reproche à ses anciens collaborateurs la gestion catastrophique des événements de Touba, une ville située à environ 250 km au nord de Conakry. Elle abrite régulièrement des rassemblements de musulmans à l'occasion de fêtes et événements religieux. Des violences y ont éclaté le 14 novembre, au lendemain d'un grand rassemblement entre camps rivaux autour de la construction d'une grande mosquée dans la cité. Le bilan est de 2 morts, de nombreux blessés, ainsi que des bâtiments et véhicules incendiés, a déclaré le procureur de la République près la cour d'appel de Conakry, Sherif Mounjou. À ce jour, 13 personnes ont été interpellées. Ces limogeages interviennent à moins de 4 semaines de l'investiture d'Alpha Condé, réélu en octobre pour un second mandat de 5 ans. Officiellement, la Guinée, avec plus de 12 millions d'habitants, compte environ 85% de musulmans et 10% de chrétiens, le reste étant des adeptes de croyances traditionnelles.
Au Burkina Faso, un responsable de la rébellion Touareg au Mali a été écroué à Ouagadougou pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre dernier. Les précisions avec Eddy Sango.
Selon Ali Sanou, secrétaire général du mouvement burkinabé des défenses des droits de l'homme et de peuple, Sidi Lamine Oumar figure parmi les personnes arrêtées dans le cadre du coup d'État manqué. Sidi Lamine Oumar, qui dit être un des représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad à Ouagadougou, est le seul étranger parmi les détenus du putsch en prison à la maison d'arrêt et des corrections des armées Maka de Ouagadougou. Plusieurs responsables de la rébellion Touareg, dont les chefs du mouvement national de libération de l'Azawad, Menela, vivent au Burkina depuis 2012, quand l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, jouait le rôle des médiateurs de l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne. Certains ont quitté depuis le pays à la chute du président Compaoré en 2014. Une trentaine de personnes, dont une vingtaine de militaires, essentiellement du régiment de sécurité présidentiel, RSP, parmi lesquels les généraux Gilbert Diendéré, considérés comme les cerveaux du putsch, ont déjà été mis aux arrêts.
Au Zimbabwe, Grace Mugabe, l'épouse du président, a nié vouloir lui succéder, appelant au contraire à soutenir la candidature de Robert Mugabe, 91 ans, à la prochaine élection présidentielle en 2018, et cela même s'il doit se présenter en fauteuil roulant. La première dame, qui est âgée de 50 ans, a affirmé vouloir se concentrer sur ses fonctions au sein de la très influente Ligue des femmes de la ZANU-PF.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni a déclaré qu'il quitterait la politique pour devenir berger s'il perdait l'élection présidentielle du 18 février prochain, après 30 ans au pouvoir. « Si je perds l'élection, je quitterai le pouvoir », a affirmé M. Museveni, selon le quotidien d'État New Vision. « J'ai mon métier à la maison, je suis berger, je ne suis pas avide de pouvoir, mais avide de mission. Donc j'ai la mission de transformer les Ougandais par l'économie », a-t-il ajouté selon ce quotidien.
Et puis le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle, d'un poids de 1,111 carat, a été extrait au Botswana, a annoncé jeudi la société minière Lucara, basée au Canada. La pierre incolore, aussi grosse qu'une balle de tennis, mesure 65 mm par 56 par 40, a précisé la compagnie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attentat de Paris, réunion d'urgence à Bruxelles sur les failles sécuritaires européennes. Le Premier ministre français Manuel Valls affirmait que des individus ont profité de la crise des réfugiés, peut-être pour certains d'entre eux, pour se glisser en France. Il a ajouté aussitôt que d'autres étaient déjà en Belgique. Au passage, il a appelé l'Europe à prendre ses responsabilités concernant les modalités du visa Schengen permettant de voyager à travers l'Europe. Je vous rappelle que la chasse à l'homme se poursuit jusqu'aux Pays-Bas.
Ici à Washington, la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, a adopté hier une proposition de loi suspendant l'accueil de 10 000 réfugiés syriens et irakiens aux États-Unis. Mais le président Barack Obama a promis d'user de son veto si le texte venait à être adopté aussi par le Sénat, Lionel Gahima.
Pour la Maison-Blanche, il ne s'agit là que de nouveaux obstacles dilatoires et impraticables. Et des démocrates craignent que cette pause ne dure des années. Mais M. Obama reste optimiste, une fois passée cette vague initiale de rejet des réfugiés syriens après les attentats de Paris. Certains législateurs craignent en effet que des terroristes infiltrent le groupe des réfugiés et commettent aussi des attentats similaires ici. Le texte a été voté par 289 voix contre 137, un nombre important de démocrates se joignant à la majorité républicaine. Mais on ignore son sort au Sénat. Il comporte des restrictions plus rigoureuses encore pour les Syriens et les Irakiens entrant aux États-Unis. L'administration Obama soutient, elle, que sa procédure de sélection des réfugiés est plus rigoureuse que pour n'importe quel autre type de voyageur. Seulement, un peu plus de 2000 réfugiés syriens ont été acceptés à ce jour depuis le début de la guerre civile en 2011.
Au moins 5 personnes, dont un citoyen américain, ont été tuées à Tel Aviv et en Cisjordanie occupée dans 2 attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens. Bagassi Koura.
C'est l'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis le début, le 1er octobre, d'une escalade de violence ayant fait plus de 100 morts. Après quelques jours de relative accalmie, 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées en Cisjordanie près du bloc de colonies israéliennes du Gush Etzion. Selon l'armée israélienne citée par l'AFP, un Palestinien à bord d'une voiture a ouvert le feu sur un groupe de civils à une intersection avant de foncer sur un groupe de piétons. Les forces de sécurité présentes sur place ont ouvert le feu. Un des morts est un Israélien habitant la colonie proche du lieu de l'attaque et un autre, un citoyen américain selon la police israélienne, qui n'a pas révélé son identité. Le ministère de la Santé palestinien a dévoilé l'identité de la 3e victime, un Palestinien du nom de Shadi Zoudi Ratib Arafat, âgé de 26 ans et habitant d'Hébron en Cisjordanie. Le ministère a accusé l'armée israélienne de l'avoir tué. Au cours du même après-midi, un Palestinien a tué 2 Israéliens et blessé un 3e à coups de couteau à Tel Aviv.
Et cette dernière information, Jonathan Pollard, un juif américain ayant espionné au profit d'Israël, doit sortir vendredi de sa prison aux États-Unis après 30 ans d'une réclusion jugée démesurée par l'État hébreu, où il est vu par une partie de la population comme un héros national.
La police chinoise a tué 28 membres d'un groupe terroriste au Xinjiang, une région particulièrement secouée par des violences et principalement peuplée de musulmans turcophones, ont annoncé vendredi des médias étatiques citant les autorités locales. Cette annonce intervient au terme d'une opération de 56 jours engagée par les forces de l'ordre après un épisode de violence qui avait fait en septembre une quinzaine de morts, a indiqué le portail d'information du gouvernement régional. Un des membres du groupe terroriste s'est rendu, a-t-il précisé.
Pyongyang a proposé vendredi à la Corée du Sud des discussions préliminaires la semaine prochaine, vraisemblablement pour préparer une rencontre de haut niveau dont la tenue avait été décidée par les deux rivaux en août. L'agence officielle du Nord, KCNA, indique vendredi que la proposition adressée à Séoul par le Comité pour une réunification pacifique de la Corée, organisme du Nord, gérant les affaires intercoréennes, portait sur des discussions prévues le 26 novembre.
Colombie, enfin, la police a arrêté 22 narcotrafiquants qui expédiaient de la cocaïne et de l'héroïne dissimulées dans des fleurs depuis l'aéroport de Bogota vers l'Europe, les États-Unis et l'Amérique centrale. Cette bande de narcotrafiquants, qui effectuait des envois petits mais constants vers l'étranger, introduisait la drogue dans des chargements de fleurs préparés pour l'exportation et stockés dans les entrepôts de l'aéroport El Dorado. La Colombie est le principal producteur mondial de feuilles de coca, composant de base de la cocaïne. Selon un rapport récent de l'ONU, elle en a exporté environ 442 tonnes en 2014, soit 52% de plus que l'année précédente.
Vous êtes toujours à l'écoute de VO Afrique. Tout de suite, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Au Botswana, le deuxième plus gros diamant au monde depuis un siècle vient d'être découvert dans la mine de Karowe, au centre-est du pays. La mine de Karowe est exploitée par la société canadienne Lucara. S'il est impossible pour le moment de déterminer la valeur de la gemme qui pèse 1111 carats et a le volume d'une balle de tennis, les experts estiment qu'elle a le potentiel pour être, je cite, « extrêmement chère ». Le Botswana est le deuxième pays producteur de diamants au monde après la Russie. L'organisme de financement du commerce extérieur du Canada, l'EDC, a ouvert une succursale à Johannesburg. Un signe de son engagement en faveur du développement des affaires en Afrique subsaharienne. Les actions de l'EDC ont permis aux entreprises canadiennes et africaines de générer plus de 7,4 milliards de dollars américains ces 5 dernières années. Objectif des 5 prochaines années, 10 milliards de dollars américains. Au Liberia, ArcelorMittal va licencier 450 personnes avant la fin de l'année, contre-coup des pertes enregistrées par le groupe de sidérurgie après la chute mondiale des prix du minerai de fer et aussi la baisse de la demande chinoise. En août, au moment de la fermeture des mines pour cause d'Ebola, ArcelorMittal avait assuré qu'il espérait reprendre rapidement les travaux pour tripler la production à 15 millions de tonnes d'ici fin 2015. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, les pertes enregistrées s'élevaient à 1,26 milliard, soit près de 10 fois plus que l'année précédente à la même période.
Et maintenant, les sports avec Eric Manirakiza. On commence, Eric, avec la FIFA, troisième et dernière réunion de la commission de réforme.
Oui, cette commission veut redonner de la crédibilité à une institution en pleine crise et se réunit à Zurich pour finaliser ses propositions. Primo, limiter à 12 ans les mandats cumulés du président et à 74 ans l'âge maximum. Secundo, mieux contrôler l'intégrité des membres du comité exécutif. Tertio, rendre publique la rémunération du président et des membres du gouvernement du football mondial. Les propositions retenues seront d'abord soumises au comité exécutif début décembre, puis au congrès de la FIFA en février, et l'élection du successeur de Joseph Blatter est prévue dans plus de 3 mois.
En France, malgré les attentats de Paris, les matchs du championnat ne sont pas suspendus.
C'est dans une ambiance particulière que les matchs se joueront ce week-end. Le ministère de l'Intérieur a interdit le déplacement des supporters à l'extérieur et les clubs hôtes ont pris des mesures particulières pour assurer la sécurité des spectateurs pour éviter ce qui allait arriver vendredi. Les djihadistes s'attendaient à déclencher l'apocalypse au Stade de France.
Et en Espagne ?
Avant le Clasico de samedi, Real Madrid-FC Barcelone, le duel des entraîneurs Enrique Benitez, la glace et le feu.
Rugby, Richie Macau quitte les All Blacks.
À 34 ans, l'emblématique capitaine des All Blacks, Richie Macau, détenteur du record mondial des sélections, 148 au total, a annoncé sa retraite à Wellington 3 semaines après avoir soulevé la Coupe du Monde de William Webb Ellis pour la 2e fois.
Enfin, en athlétisme.
Oui, les athlètes russes veulent réintégrer les compétitions. Le comité olympique russe a annoncé ce mercredi la création d'un comité ad hoc chargé de nettoyer la Fédération russe d'athlétisme accusée par les instances internationales de dopage organisé. Eh bien, les sportifs à la retraite ou encore en activité, Ed Moses et Kirsty Coventry, membres du conseil de l'Agence mondiale antidopage, AMA, attendent des instances sportives internationales plus d'intransigeance.
Et du côté des parquets, voici les résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Sacramento s'incline 109 à 116 face à Miami. Milwaukee perd 100 à 115 derrière Cleveland. Et San Francisco l'emporte face à Los Angeles ce soir avec un score, avec un score de 124 à 117.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours avec vous, Tatiana Mosso, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Confédération indépendante des syndicats du Tchad a appelé ses membres enseignants en grève depuis le 11 novembre à reprendre le travail ce vendredi. À l'origine de leur grève, le non-paiement des salaires d'octobre et des primes d'examen et concours. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le secrétaire général adjoint de la CIST, Mahamat Nasraddine Moussa.
C'était le 17 novembre 2015. On s'est rencontré avec le ministre des Finances et des Budgets. Il nous a fait savoir que l'intégralité des salaires était payée, ainsi que les primes des examens et concours. Nous avons pris note et nous allons vérifier cette information d'abord avant qu'on décide quelque chose. C'est pourquoi nous avons appelé toutes les régions. En ce qui concerne les salaires, nous avons trouvé que c'est versé. Mais en ce qui concerne les primes des examens en concours, nous avons constaté que 4 régions n'ont pas reçu les primes des examens et concours. Et jusqu'à le 18, le 19, on nous a fait savoir que tout est envoyé. Nous avons vérifié que les salaires et les primes des examens et concours sont payés. Donc, on s'est retrouvé, nous avons évalué et nous avons décidé de lever les mots d'ordre de grève.
En dehors des salaires et des primes d'examen, qu'est-ce qu'il y a comme autre grief de vos militants?
Nous avons publié le 17 septembre 2015 un communiqué de presse qui tient un préavis de grève. Et nous avons cité beaucoup de points et surtout, nous avons demandé au gouvernement de réviser le décret 255 portant le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle grille salariale. Il y a eu une confusion entre le reclassement et le reversement. Et ce que nous avons constaté sur ce décret, que les anciens y sont lésés. Par exemple, au niveau des catégories C, nous avons remarqué ceux qui sont au premier échelon. Deuxième échelon, troisième échelon, quatrième et cinquième échelon sont reversés au premier échelon. Donc, pour dire, celui qui vient d'intégrer il y a de cela 2 ans, il gagne le même salaire que celui qui a travaillé à la fonction publique pendant 10 ans. Donc nous avons jugé, nous avons vu que c'est injuste et nous avons demandé que le gouvernement révise ce décret-là.
Maintenant que le gouvernement a posé quelques gestes positifs, pensez-vous que cela va continuer?
Nous avons dit au gouvernement très clairement, comme le texte dit, 8 jours francs après le mois, les travailleurs ont le droit de ne pas aller au travail. Si jusqu'à le 8 de chaque mois, ils n'arrivent pas à payer les salaires, nous, automatiquement, on demande à nos militants d'arrêter le travail.
C'était Mahamat Nasraddine Moussa, secrétaire général adjoint de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, joint à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Pour un coût de plus de 60 millions de francs CFA, l'ambassade des États-Unis au Mali vient de rénover le champ de tir de l'école de la police nationale. L'infrastructure rénovée a été baptisée Sergent Cher Oumar Dembélé, qui a été assassiné lors de l'attentat terroriste au restaurant La Terrasse de Bamako en mars dernier. La rénovation de ce champ s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Kassim Traoré.
Le vieux champ de tir de l'école nationale de la police du Mali vient de se faire une peau neuve. C'est là grâce à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Commissaire divisionnaire Mamadou Zed Sidibé, directeur général adjoint de la police nationale du Mali.
Auparavant, les exercices de tir se déroulèrent dans des conditions d'insécurité et inconfortables à bien des égards. Mais félicitant de l'effort consenti par l'ambassade des États-Unis, je donne toute l'assurance que cette infrastructure, digne de considération à la dimension de la coopération entre nos deux pays, sera utilisée à bon escient.
Avant de financer la rénovation de ces champs de tir, le programme antiterrorisme du Bureau de la sécurité diplomatique du département droit d'État, avait investi 600 millions de francs CFA pour la formation de 430 agents. Une vingtaine de sessions de formation ont été organisées en 2015. Ces formations vont continuer avec un seul but, Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Aider le Mali dans sa transition vers un pays pacifique. Le champ de tir est le parfait exemple d'un partenariat fort. Nous avons entièrement rénové le champ de tir à l'Académie de police pour un coût approximatif de 60 millions 900 CFA. Ce financement du programme d'assistance interterrorisme du département d'État. Nous sommes solidaires avec le gouvernement de Mali dans sa lutte contre le terrorisme.
Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a remercié l'ambassade des États-Unis au Mali pour la rénovation de ses champs de tir. Colonel Major Salif Traoré.
Nous souhaitons avoir des forces de police professionnelles, bien formées, bien entraînées, et cela passe obligatoirement par des aptitudes au tir. Et cette infrastructure est très très bien indiquée pour cela. Et au-delà de la police, elle pourra servir à toutes les autres forces de sécurité nationales comme les forces amies, offrir donc un dispositif d'entraînement idéal pour cela. Encore une fois, merci beaucoup à l'ambassade des États-Unis.
Les champs de tir rénovés portent le nom du sergent Cheikh Oumar Dembélé, assassiné dans la nuit du 6 au 7 mars 2015 lors de l'attentat au restaurant La Terrasse de Bamako. Le choix porté sur ce jeune sergent est salué par le syndicat national de la police, dont le secrétaire général est le commissaire Abdourahman Alassane.
Notre policier a été sauvagement tué par des bandits, par des terroristes, par des narcotrafiquants dans l'exercice de sa fonction. Et aujourd'hui, notre nouveau champ de tir porte son nom. C'est une plus grande honte, fierté pour la police nationale. Nous savons aujourd'hui que les autorités pensent à nous et ils nous regardent parce qu'en portant, en donnant le nom de Cheikh Oumar, ça va nous motiver, ça va motiver tous les policiers à travailler pour l'État.
Pour permettre aux policiers de protéger de manière professionnelle la population, de prévenir la criminalité et d'autres attaques extrémistes, une vingtaine de formations seront initiées et financées par l'ambassade des États-Unis en 2016. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Zimbabwe va introduire une nouvelle taxe foncière visant les fermiers noirs réinstallés et dont beaucoup sont déjà en difficulté. Les précisions d'Éric Manirakiza.
À partir de janvier 2016, le gouvernement zimbabwéen se propose en effet de faire payer les agriculteurs noirs ayant bénéficié de la réforme agraire entre 3 dollars et 10 dollars par hectare et par an. Harare, qui fait face à de sérieuses difficultés économiques, est à la recherche de revenus. La décision gouvernementale est d'autant plus remarquable que l'impôt foncier est l'une des raisons ayant poussé les nationalistes comme le président Robert Mugabe à lancer la guerre de libération dans les années 1960. Dans le cadre de la réforme agraire controversée qui a débuté en 2000, le gouvernement a confisqué des milliers de fermes commerciales appartenant à des blancs pour les redistribuer aux agriculteurs noirs. Pour le président Mugabe, il s'agissait de corriger les déséquilibres coloniaux. Manquant de capital financier et d'équipement, les fermiers nouvellement installés ont été confrontés aux exigences de l'agriculture commerciale. Beaucoup ont fait appel aux agriculteurs commerciaux blancs, les employant comme gestionnaires ou des consultants. Pour Douglas Mombeshora, ministre des Terres et de Réinstallation, cette pratique est illégale.
This we say no.
Nous disons non à cela, bien que nous comprenions qu'en tant que gouvernement, nous n'avons pas été en mesure de soutenir pleinement nos agriculteurs et que les institutions financières sont peu désireuses de leur prêter de l'argent. Nous ne voyons pas la sous-location des terres aux agriculteurs blancs comme une solution, a-t-il déclaré. Selon le ministre Mombeshora, le gouvernement autorise les partenariats dans l'agriculture à condition que les agriculteurs soumettent leur dossier à son département. Toute demande incluant un ancien agriculteur commercial blanc comme partenaire sera rejetée, a-t-il rappelé. Qu'à cela ne tienne, de telles demandes n'ont cessé de se multiplier depuis 2009. Un agriculteur cultivant le soja et le tabac près de Harare et ayant requis l'anonymat en raison de la nature sensible de la question, d'y avoir obtenu ces 10 hectares de terre en l'an 2000 dans le cadre du programme de réforme agraire. Il dit que d'autres agriculteurs noirs comme lui n'ont pas de garantie pour obtenir des prêts, alors que les anciens fermiers commerciaux ont des relations établies de longue date avec les banques. Alors ils font équipe avec ces derniers pour obtenir les prêts et ces blancs obtiennent des parts dans les entreprises agricoles ainsi créées. De son côté, le syndicat des agriculteurs commerciaux, qui représente 6 000 agriculteurs blancs dépossédés de leurs terres, a expliqué à la VOA que le gouvernement zimbabwéen ne répond pas aux demandes d'autorisation d'exploitation de ses membres. Les critiques du programme de réforme agraire disent que la politique visait à punir les agriculteurs soutenant l'opposition politique. Ses détracteurs affirment que l'initiative a créé de graves pénuries alimentaires. Selon l'ONU, 1,5 million de Zimbabwéens pourraient avoir besoin d'aide alimentaire cette année.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Une femme a été élue pour la première fois à la tête du Parlement des Émirats Arabes Unis. Amal Akbaïsi, architecte de formation et ancienne ministre de l'Éducation, est très appréciée par la classe politique, les femmes et les jeunes. Nathalie Barge a joint à Genève Zeyna Hilal, chargée du programme Participation politique des femmes à l'Union interparlementaire.
Je connais personnellement bien Dr Amal Al-Kubaïsi. Elle est une des parlementaires très actives au sein de l'Union interparlementaire. Dr Al-Kubaïsi a été représentante de la région arabe dans notre comité des femmes parlementaires. Elle a aussi été une instigatrice de notre forum des jeunes parlementaires de l'UIP. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé à l'international et au niveau de son pays, au niveau de la région arabe également, beaucoup sur les questions de l'habilitation des femmes, sur les questions du renforcement de la participation des femmes en politique et de la participation des jeunes également. Nous sommes absolument ravis de son élection à la tête du Conseil national des Émirats arabes unis.
Comment expliquer son élection? Parce que, disons, c'est un petit peu surprenant pour un pays comme les Émirats arabes unis, non?
C'est surprenant d'un côté, parce que dans la région arabe, c'est la première femme à prendre cette position de présidente de parlement. C'est évidemment une excellente surprise. Cela dit, il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis, depuis 2006, sont passés de 0 femmes parlementaires à une proportion de 22,5% de femmes au parlement. Ce n'est pas très surprenant quand on connaît Dr Amal Al-Kubaïsi. C'est quelqu'un qui a fait un excellent travail dans son Parlement. Elle a également fait un excellent travail en tant que ministre, parce qu'elle a été ministre de l'Éducation. C'est quelqu'un qui a représenté son pays à l'international de la meilleure manière qui soit. C'est une personne très active, qui est bien sûr soutenue par une base dans son pays.
Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela va changer finalement pour le pays, notamment pour les femmes? Est-ce que cela veut dire peut-être plus de liberté dans l'avenir?
À mon sens, bien sûr, ça va améliorer les choses. D'abord, avoir une femme présidente de parlement permet d'avoir une femme modèle pour beaucoup de jeunes filles et beaucoup d'autres femmes dans le pays pour les intéresser à la politique.
Elle est jeune et elle est aimée par la jeunesse, c'est ça?
Effectivement, uh-huh. Oui, effectivement, par les femmes et par la jeunesse, oui. C'est également quelqu'un qui a fait sa place en politique, qui est écouté, qui est extrêmement respecté et qui va certainement pouvoir guider son Parlement vers des législations, vers des politiques probablement plus centrées sur la population, les besoins de la population et notamment donc les besoins des femmes.
Zeyna Hilal, chargée du programme Participation politique des femmes à l'Union interparlementaire. Elle était jointe à Genève par Nathalie Barge.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. 5 88-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone. Yeah.
Le monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition terminant musique. Merci à Anne Albertson avec le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Tatiana Mosso depuis Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.